Donc nous avons commencé la semaine dernière à nous poser la question pourquoi l'homme postmoderne, donc l'homme actuel, doute-t-il de l'existence de Dieu ? Et j'avais émis l'hypothèse, appelons ça comme ça, qu'il y avait à cela trois raisons principales, dont la première était tout simplement l'absence de preuves. Alors j'avais relativisé la chose, pas trop développé la chose non plus, mais il est clair que des preuves subjectives ou tant soit peu objectives, il y en a bien sûr. La deuxième raison pour laquelle les gens doutent de l'existence de Dieu nous touche sans doute de beaucoup plus près, nous, les chrétiens, nous qui disons croire dans ce que le Christ a accompli à la croix. Et j'appellerai cette deuxième raison pour laquelle l'homme doute, là, ça vaut ce que ça vaut, c'est le titre que je lui ai donné, la désincarnation. Paf ! Les gens doutent de l'existence de Dieu car celui-ci n'est plus incarné, ou plus assez, par son peuple ou ne l'a pas été depuis que le Seigneur est retourné auprès de son Père. Le peuple Église n'est pas meilleur, ni plus aimant, ni plus généreux que le peuple ne connaissant pas Dieu. On pourrait le résumer comme ça. Alors, au risque de tomber dans une forme d'autoflagellation, l'un des principaux obstacles à la foi en l'existence de Dieu, c'est nous, ce sont les chrétiens que nous sommes ou ne semblons pas être. En effet, si le christianisme détient la vérité, si c'est à travers l'Église que cette vérité doit se révéler en grande partie, pourquoi n'en sommes-nous pas de meilleure publicité de cette vérité ? La réalité, c'est que même des pasteurs, alors que ceux-ci sont supposés avoir la foi en ce que Dieu peut et veut faire en l'autre, abandonnent souvent le ministère parce qu'ils ne voient pas l'évidence de la présence de Dieu dans la vie de ceux qui disent le connaître, et parfois même plus dans leur propre vie non plus. En d'autres termes, il y a une sorte de constat d'échec. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais si certains pasteurs, entre autres, ont ce sentiment, d'autres l'ont aussi, et parfois c'est une forme très forte. Donc si de l'intérieur, déjà, on se dit il y a quand même un léger problème, les gens ne changent pas, ne montrent pas Dieu, ben, si on pense déjà parfois ça dans l'Église, je ne vous dis pas à l'extérieur, forcément. Samaris, l'auteur de la lettre à une nation chrétienne et de la fin de la foi, c'est deux de ses ouvrages, c'est un athée notoire, argue qu'en fait la religion constitue la plus grande menace, c'est son hypothèse, la plus grande menace pour la civilisation et la survie de l'espèce humaine. Ce danger, ou ce pseudo-danger de la représentation de la foi à travers l'Église est devenu un thème récurrent depuis le 11 septembre 2001 et l'émergence de la menace terroriste. Alors on a une lecture très politique de la chose, mais en fait la conséquence directe, c'est que la religion, dans l'esprit des gens qui ne croient pas, la religion est devenue un facteur de perturbation. Alors on sait, on focalise sur la foi musulmane, de l'islam, mais en potentialité, les gens qui ne croient pas ont quand même tendance à faire une sorte d'amalgame entre tout ça et dire que même la religion chrétienne est potentiellement, entre guillemets, capable d'actes extrêmes et terroristes. Il y a encore deux semaines ou trois semaines, je ne sais plus, il y avait Michel Onfray, le philosophe que vous connaissez peut-être. On l'avait réinterrogé sur un livre qu'il a fait sur l'islam il n'y a pas tellement longtemps, où ça, pour faire simple, où son présupposé, en tout cas sa déduction de la lecture coranique en tant qu'athée, lui faisait dire que les terroristes qui se font sauter en l'air pour la foi en Allah étaient probablement ceux qui avaient bien compris le texte du Coran, que les vrais musulmans, c'était ceux-là, parce que c'était ce que le Coran invitait ses enfants à faire. Et dès qu'il a exprimé ça, la journaliste en face de lui a dit « Oui, mais dans la Bible aussi, il y a des violences. » Vous voyez les amalgames. À ma connaissance, il n'y a aucun chrétien qui se fait sauter en l'air par amour pour Dieu. Alors, bien entendu, on va vous citer les grands classiques. Quand vous êtes justement tenté de parler de votre foi, l'Inquisition, bon, ça remonte, mais enfin, on me le sait encore souvent. L'Inquisition, les croisades, ou encore les procès en sorcellerie, entre autres ceux tenus à Salem, sur la côte est des États-Unis. Il faut quand même relever encore que ce sont des chrétiens qui ont utilisé la Bible pour justifier l'esclavage. L'apartheid, Genèse 9, le peuple africain, excusez-moi mes sœurs, pour eux, pour ces chrétiens, pas si loin que ça, il y en a encore dans le sud des États-Unis aujourd'hui, au moment où je parle, pour ces chrétiens, Genèse 9, c'est-à-dire le peuple africain et les descendants de Cham, celui qui a découvert, qui a osé avoir accès à la nudité de son père Noé, et il avait été maudit par Dieu à cause de ça. Donc toute cette lignée était supposée devenir esclave à partir d'un texte biblique. Comment est-ce qu'on peut lire la Bible dans son entier et faire une telle interprétation des textes? Et pourtant, c'est ce que certains chrétiens ont fait. C'est encore aujourd'hui de la Bible que certains chrétiens se servent pour justifier la subordination de la femme à partir des textes bibliques. Mes sœurs, vous devez vous taire, en fait. Enfin, pour cette église-ci, c'est raté, hein, ça c'est sûr que... Un autre athée notoire du nom de Steven Weinberg synthétise la chose comme suit. Il a résumé cette pensée comme suit. Écoutez, ça c'est fort. Écoutez bien. Des bonnes personnes font de bonnes choses. De mauvaises personnes font de mauvaises choses. Mais si vous voulez que de bonnes personnes fassent de mauvaises choses, vous avez besoin de la religion. Autrement dit, la religion transformerait des bonnes personnes à la base en de mauvaises personnes. Alors, je crois qu'il faut être honnête, hein, mes amis. Beaucoup de choses terribles ont été perpétrées au nom du Dieu de la Bible et continuent à l'être, et même au nom de Dieu. Hein. Ce sont majoritairement des personnes se disant chrétiens qui ont été élues démocratiquement, des gens tels que Trump ou Bolsonaro. Ils ne seraient pas au pouvoir, ces deux crétins, si des chrétiens n'avaient pas voté pour eux. Hein. Alors tiens, je vais faire de la politique, je n'aurais pas dû. Et ça ne sert à rien de minimiser ces choses ou de faire semblant qu'elles n'existent pas. Parce que potentiellement, si vous voulez partager votre foi, on va vous demander raison de ces votes. Vous faites partie du peuple de Dieu, donc vous ne pouvez pas dire « Oui, mais c'est des Américains, c'est des Brésiliens, ils sont tous complètement idiots. » C'est possible. En attendant, c'est un argument qui ne passera pas. « Oui, mais nous, nous sommes en Europe, ça ne passera pas. » De toute façon, l'Europe s'est déchristianisée. Hein. On a désherbé, on a mis du désherbant. Hein. La foi en Europe, elle est du même niveau que les dinosaures, quoi. Disparu, quasi. Ce qu'il faut retenir, c'est que la déshérence, le mauvais témoignage des chrétiens est prophétisé dans la Bible, c'est inscrit. Dieu, il n'est pas surpris. C'est ça qui est terrible. Notre Dieu n'est pas surpris par ça, vous savez, il savait. On prend un texte, hein, il y en a d'autres. Hein. Première lettre de Pierre. Car c'est le moment où le jugement va commencer par quoi ? Par la maison de Dieu. Pourquoi croyez-vous que la maison de Dieu, nous allons être jugés ? C'est parce que Dieu sait. Or, si c'est par nous qu'il commence ce jugement, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste, celui qui connaît le Christ, qui est sauvé en Christ, se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? Pierre dit que la maison de Dieu sera jugée en premier. Nous passerons devant le tribunal de Christ. Notre Seigneur va évaluer notre vie chrétienne. Ce qu'on aura fait de ce dépôt sacré qui est l'Évangile, ce qu'on aura fait de nos vies chrétiennes, ce qu'on aura fait de nous qui avons par baptême dit « Ma vie t'appartient, je serai un de tes disciples à partir de maintenant. » Moi, vous savez le nombre de gens que j'ai baptisés. Moi, j'en ai baptisé des gens. Beaucoup ne sont plus là. Ils ne sont pas morts physiquement. Hein. Ils sont partis dans la nature. Pourtant, ils s'étaient engagés. Il n'y a pas que Pierre, forcément, qui a parlé de ça. Il y a d'abord notre Seigneur, Jésus. Je prends un texte dans Marc. Ce sera comme lorsqu'un homme part en voyage. C'est un peu ça. Hein. Ça fait quand même près de 2000 ans qu'on attend qu'il revienne. Il quitte sa maison et en laisse le soin à ses serviteurs. Devinez qui sont les serviteurs. Il donne à chacun un travail particulier, selon ses dons, à faire, et il ordonne aux gardiens de la porte de rester éveillés. Restez donc éveillés, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra. Ce sera peut-être le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. S'il revient tout à coup, il ne faut pas qu'il vous trouve endormi. En réfléchissant à l'effet parfois négatif qu'ont les chrétiens que nous sommes sur la perception qu'ont nos contemporains de Dieu, une question m'a pendant longtemps gardé éveillé la nuit. Pour le dire autrement, je me suis pris la tête avec cette question. Et la question, la voilà. Pourquoi Jésus ne s'est-il pas incarné à notre époque ? C'était plus facile maintenant. Oui. Franchement, avec tous les... Imaginez, hein, il arrive à Jérusalem aujourd'hui et il envoie le message. Dans les 20 secondes qui suivent, le monde entier a Jésus sur son écran, même dans sa poche. Et puis, ce serait génial parce qu'il pourrait proclamer le message. Il n'y aurait plus d'altération, hein, c'est fini. Il y a plus d'obstacles. Il est là, le monde est en face et il envoie le message. Il n'a plus besoin de nous. Mieux, on va enregistrer tout ce qu'il dit à la virgule près. Il n'y aura plus de mauvaises interprétations, comme Genèse 9 hein, et l'esclavage. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi de faire comme ça ? Donc je me suis dit, au bout de ma réflexion, je me suis dit, est-ce qu'il aurait fait, Dieu, une erreur de marketing? Honnêtement, hein? Parce qu'il a choisi de passer par nous. Moi, j'aurais été à sa place. Je vais pas confier le message à cette bande de... Et pourtant, il doit nous aimer quand même un petit peu. Hein? Je suis arrivé à la conclusion que Dieu n'a pas commis d'erreur. C'est un scoop, hein, ça. Dieu ne commet pas d'erreur. C'est fou, hein, ça. Je crois que son plan a toujours été, dès avant la fondation du monde, et il y a plusieurs textes qui disent ça, que son message ne soit pas seulement entendu, qu'il ne soit pas seulement composé de mots, mais qu'il soit en quelque sorte incarné, enveloppé de chair humaine. Que ça passe par des véritables hommes et de véritables femmes. Et ça n'a rien d'étonnant, puisque c'est aussi le chemin que lui a emprunté pour que le salut soit accessible, à savoir l'incarnation, se revêtir de chair et mourir sur la croix. C'est une logique là-dedans. C'est que l'Église est supposée continuer l'incarnation du Christ. Quand Paul dit dans la première aux Corinthiens, « Vous êtes le corps de Christ », c'est pas une abstraction, hein. Nous sommes le corps de Christ. Si quelqu'un pleure à mes côtés dans le tourment, les seuls bras pour prendre la personne, ce sont les miens. Hein. Jésus ne va pas descendre pour vous consoler la personne à côté de vous. Hein. S'il a des yeux pour pleurer, Jésus aujourd'hui, ce sont forcément vos yeux à vous. Hein. Dieu le Père a voulu que l'Église incarne son message et sa vérité. Dieu s'est fait homme et s'est incarné en Jésus. Et cette incarnation se poursuit aujourd'hui par celle du Saint-Esprit dans l'Église, en chacun d'entre nous. Et je reprends ce texte que vous connaissez certainement dans la première aux Corinthiens, j'y fais allusion à 2 minutes. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus ou point, vieille version, à vous-même. Nous devons donc non seulement prêcher l'Évangile avec des mots, le rendre intelligible, l'intellectualiser, si vous préférez, mais aussi à travers notre vie, notre amour, même si jusqu'ici nous avons peut-être fait défaut ou échoué à le faire. J'ai fait plusieurs messages sur les valeurs de cette Église il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, l'intégrité, l'authenticité, la croissance, la vie de prière, l'enseignement de la Bible, le discipulat, etc. Mais toutes ces valeurs n'ont aucun sens si nous ne les incarnons pas. Donc revenons un tant soit peu sur les accusations, pour une bonne part fondées, malheureusement, portées contre l'Église. Il est une question toute simple par rapport aux accusations que les gens peuvent faire par rapport au vécu de l'Église. Il y a une question quand même qu'il faut se poser et poser aux autres qui nous interpellent sur ce sujet. Et cette question, la voici. Les atrocités perpétrées au nom de Dieu constituent-elles l'expression de l'enseignement de Jésus ou sont-elles une violation de cet enseignement? C'est aussi bête que ça. Qui est-ce qui a fondé le christianisme? Jésus. Nous sommes d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que l'enseignement de Jésus colle avec l'inquisition, avec l'esclavage, avec l'oppression des minorités, avec le non-amour de son voisin? Il semble que la réponse est claire. Hein? Jésus qui a dit, je rappelle, hein, « Aimez vos ennemis », ou encore « Bénissez ceux qui vous persécutent ». C'est Jésus qui a aussi dit, ça c'est pas un verset facile à vivre, hein. Si on te frappe sur la joue gauche, tends la droite. Lui encore qui a dit sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Est-ce que tout ça, c'est compatible avec ce que l'Église, à un moment donné de sa vie, et peut-être encore aujourd'hui, perpétue comme acte et comme action? La réponse est forcément non. L'application que certains ont fait en tant qu'Église de l'enseignement de Jésus est une atteinte grave à la discipline et à la dignité de Dieu. C'est pour ça que les chrétiens que nous sommes passeront devant le Christ dans son tribunal. Pas en vertu du salut, si le fondement est là, mais vous risquez rien, vous serez en... Mais Paul le dit quand même, certains seront sauvés, je cite, « comme à travers le feu ». C'est que la porte va se refermer sur leurs deux fesses. Ils passeront, mais... Ça passera, mais limite. Limite. J'ai un chrétien à des années qui m'a dit ça. Moi, je m'en fous du moment, même si la porte se ferme, du paradis se ferme sur mon derrière, moi, c'est bon. Comment est-ce qu'on peut avoir ce genre de réflexion, quoi? Moi, en termes de présent, si les récompenses célestes jouent par rapport à la proximité de Jésus, moi, j'aimerais autant être assis à côté de lui à table. Hein. Mais il n'y a que deux places. Hein. En face, ça fait trois. Si la place en face est chère aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Alors, de plus, il est vrai, comme je l'ai dit la semaine dernière, que l'on peut déplorer les croisades, l'esclavagisme soutenu par les chrétiens et l'inquisition, il faut aussi rappeler que ce sont des chrétiens qui se sont battus pour qu'on arrête l'esclavage. William Wilberforce était un chrétien qui s'est battu toute sa vie pour qu'on arrête cette pratique. C'était un Anglais. Ça n'étonnera personne. Hein. Les croisades, entre autres contre les hérétiques qui s'étaient perdus en chemin, albigeois, sud-ouest de la France. Il y a une croisade pour les détruire. Mais vraiment, hein, sponsorisée par le Vatican. Il y en a un seul à l'époque qui a dit « c'est hors de question, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne ». C'est Dominique qui a fondé l'ordre des Dominicains. Et je le cite, il a dit « on ne réfute pas, on ne contre pas une hérésie en torturant les hérétiques. On contre une hérésie par la parole de Dieu ». Et plutôt que d'aller faire croisade, lui, avec un de ses potes, là, il a pris sa petite Bible sur son bras et il a été dans la région pour prêcher l'évangile à toutes ces personnes qui étaient en train de dévier quelque part. En rapport avec tout cela est une autre question toute simple que nous devons nous poser. Nos sociétés auraient-elles été plus accueillantes, plus pacifiques, plus agréables si l'on en avait éradiqué Dieu ? Tout simplement. Imaginez une société sans Dieu, plus aucune référence à Dieu. On y va quand même un petit peu là, mais on n'y est pas encore. Hein. Ce n'est pas encore le pire du pire. Hein. Ça va venir le pire. Prenez patience, hein. Ça va venir. Alors, et si ces sociétés, imaginez que ces sociétés aient existé dans le passé, imaginons, quels en ont été les résultats ? C'est une question qu'il faut se poser aussi. Hein. Est-ce qu'on est dans ces sociétés, on avait plus de tolérance, plus de couleurs, plus d'ouverture, plus d'amour ? Alors, on va faire un peu d'histoire. Hein. On va s'arrêter au chapitre totalitarisme, hein, d'accord ? On va prendre nos calculettes. Rien qu'au XXe siècle, j'ai fait un calcul, hein, Staline, 35 millions de morts. Hitler, 23 millions de morts. Pol Pot, c'est les Cambodgiens, mais ça compte quand même. Hein. Comme disait l'autre, 2 millions de morts. Mao, 17 millions de morts. Alors ces chiffres ne concernent que les morts de leur propre peuple. Hein, parce que si pour Hitler, on n'est pas 23. 23 millions, c'est le nombre d'Allemands morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. 23 millions d'Allemands. Si on rajoute les autres, ça fait quasi un peu plus de 50 millions. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces régimes avaient le même ADN. L'éradication pure et simple de toute référence à Dieu, c'était des systèmes politiques, des idéologies athées, sans Dieu. Le premier truc que Lénine a fait en 17 après la révolution prolétaire, c'est fermer toutes les églises orthodoxes. Alors Karl Marx, le père du communisme, a dit cette phrase très célèbre, vous connaissez sans doute, « La religion est l'opium du peuple ». Il semble que l'opium fasse moins de dégâts que de s'en abstenir, hein, dans ce cas spécifique. Elie Wiesel, le grand penseur juif qui a perdu toute sa famille dans la Shoah, donc dans l'extermination des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, a écrit ceci. L'absence programmée de Dieu, ou du moins l'illusion de s'opposer à sa présence, mène systématiquement à l'horreur. Vous dégagez la notion de Dieu d'une société, cette société mènera à l'horreur. Parce que même le plus grand des athées, au moment où je parle, il bénéficie de la présence de Dieu dans l'univers. Le simple fait, par exemple, que cet athée, comme vous ce matin, est assis sur une chaise. Hein. Colossiens 1, le Christ tient toutes choses ensemble. Les atomes qui constituent cette chaîne, c'est le Christ qui les tient ensemble. Hein. Plus de coagulation d'atomes, plus de chaises. Hein. L'univers se disloque. Hein. Les astrophysiciens sont d'accord là-dessus. Hein. Pas l'origine du fait que ça tient ensemble. Ils ne vont pas dire que c'est Jésus qui, forcément. Mais on va vers cette dissolution. Hein. Donc, faisons ce petit exercice mental. Imaginez une société sans religion, sans Dieu, sans foi. Pensez-vous vraiment qu'il y aurait plus de grâce, plus de convoitise, plus de jalousie, plus de racisme, plus de meurtre, plus de vol ? Pensez-vous vraiment que tous les problèmes liés à l'autre seraient résolus ? Pensez-vous que tout le monde deviendrait généreux dans ce genre de société sans Dieu ? vais vous faire un aveu. Les croisades, l'Inquisition ne me font pas beaucoup d'effet. Pourquoi ? Parce que justement, je suis effrayé par ce que peut donner une société sans foi et sans Dieu. C'est d'ailleurs malheureusement ce que connaîtra notre monde après l'enlèvement de l'Église. Je pense que l'Église sera enlevée avant que Jésus ne revienne. Ça, c'est ce que je pense. Mais en enlevant l'Église, même si l'Esprit est plus trop présent dans beaucoup d'Églises, l'Esprit incarné dans l'Église, il n'y aura plus. Et quand on prend les textes, à ce moment-là, il y aura une accélération du mal sur la terre. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui bloque le mal encore, dans son expression ultime, c'est la présence de l'Église sur la terre. C'est ça qui bloque pour l'instant. Il n'en reste pas moins vrai que la promotion de Dieu serait mieux faite si la foi produisait un meilleur genre d'être humain. Nous avons une responsabilité à ça. Selon un sondage fait aux États-Unis, il date de 4 ans, et je pense que ça ne devrait pas être fort différent chez nous. Je pense que ce serait pire chez nous, en fait. La grande majorité des Américains interrogés pensaient qu'être chrétien, et on dit que l'Amérique est une nation chrétienne encore, voilà ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce que c'est pour vous un chrétien ? Écoutez, j'ai traduit de l'anglais. Un chrétien, c'est, pour la grande majorité des interrogés, quelqu'un de conservateur, de buté, d'antigué, anti-homosexuel, colérique, violent, illogique, stupide, bâtisseur d'empire, voulant convertir tout le monde et tout le temps, et ne pouvant pas vivre paisiblement avec quelqu'un qui ne partage pas ses croyances. Ça, c'est la vision qu'une grande partie des Américains aujourd'hui ont des chrétiens.
Ouais !
Hein ? Au passage, je rappelle quand même que Jésus, il est mort aussi pour les homosexuels. Je dis ça en passant. Voilà. Et qu'il vaut mieux envoyer des gens au paradis qu'en enfer. C'est un principe quand même théologique de base, me semble-t-il. Alors, il y a dans la même analyse, dans le même questionnaire, ils ont posé la question par rapport à ceux qui enseignent l'Évangile. Donc là, je me sens concerné au premier degré. Donc, et les pasteurs, quand vous pensez pasteur, vous pensez à quoi ? Et là, c'est Frédéric Buchner, un autre athée, qui a dit ceci. Je trouve ça très drôle, même si je devrais m'inquiéter quand même. Il n'y a probablement pas de meilleure preuve de l'existence de Dieu que le fait qu'il survive, vous, année après année à la promotion que font de lui ses amis professionnels, c'est-à-dire moi, par exemple. Que vous soyez encore là, c'est un miracle, d'après Buchner. C'est un miracle, mais de la grâce. Alors bien entendu, beaucoup de chrétiens diront, et à juste titre, qu'il serait bien pire sans la présence de Dieu. Quand on vous dit, mais tu es en dessous de tout, oui, mais je serais encore pire si je n'avais pas Dieu dans ma vie. Vous pouvez toujours le dire, ça. Je ne suis pas sûr que ce soit un argument qui porte, mais bon. On pourra encore, j'ai déjà cité ça il y a quelques temps, je pense que la coupe est pleine, vous aurez compris le principe, qu'on a une grosse responsabilité dans le fait que les gens ne croient plus en Dieu. Mais on peut encore raconter l'anecdote de Jean-Paul Sartre, le philosophe, le père l'existentialisme, qui disait, il était avec un ami un matin et il voyait la sortie d'une. Il était devant une église catholique et des chrétiens qui sortaient de l'église après la messe. Et il a dit à son ami, si seulement ils avaient des gueules de ressuscités. Si seulement ils avaient des têtes. Il a dit gueules, c'est pour ça que je me permets de le dire. Si seulement ils avaient têtes de ressuscités. Donc faites attention à la tête que vous tirez en sortant d'ici, s'il vous plaît. Vraiment, Tu viens d'où pour avoir une tête pareille ? Je viens de l'église. Je viens du culte. Troisième raison pour laquelle les gens ont vraiment du mal avec l'existence de Dieu, ça c'est un grand classique, c'est question, pourquoi la souffrance ? S'il y a un Dieu, pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance ? Pourquoi il y a des pédophiles ? Pourquoi il y a des meurtres ? Pourquoi il y a des orphelins ? Pourquoi il y a du tsunami ? Pourquoi ? S'il y a un Dieu tout-puissant, parfaitement bon et plein d'amour, qui peut faire ce qu'il veut, comme il veut, quelqu'un qui supervise l'univers dans lequel nous vivons, pourquoi a-t-il encore tant de mal, tant de souffrance et tant de douleur ? Ça, c'est le genre de question bateau qu'on nous sert souvent. Et on ne peut pas se contenter de dire « j'ai pas de réponse ». Pourquoi existent-ils des catastrophes naturelles comme les tsunamis, les tremblements de terre, les incendies ? Californie, ça fait des mois que ça n'arrête pas. Pourquoi les crashs aériens, les maladies, les infarctus, les cancers ? Pourquoi les pasteurs ont des cancers ? Thèse de doctorat de théologie, ça pour moi. Pourquoi est-ce que j'ai un cancer ? Pas normal. Ben si, Il pleut sur les bons comme sur les mauvais. Et pourquoi ne nous est-il pas plus dans cette vallée de larmes et de douleurs ? Steve Weinberg, encore un athée, a dit ceci : le Dieu des arbres et des petits oiseaux devrait être aussi celui de la mortalité prénatale et du cancer. Une question de cohérence, il dit. On ne peut pas dire « Dieu, c'est merveilleux », mais Dieu n'assume pas sa part de responsabilité dans la souffrance du monde. Alors, le problème, et je reviens à nous, aux chrétiens, notre problème, je pense, c'est que souvent nous préférons éluder ce genre de questions, alors que nous avons des problèmes avec ces questions aussi. Les chrétiens éludent ça avec ceux qui ne croient pas en Dieu, parce qu'à la base, ils ont le même type de problème. La marche blanche contre Dutroux, enfin, par rapport au problème de Dutroux dans les années 90, 500 000 personnes, il y avait des chrétiens qui marchaient avec. Pourquoi est-ce qu'ils marchaient avec ? S'ils avaient parfaitement compris pourquoi il y a encore de la souffrance et des horreurs pareilles dans le monde. S'ils marchaient, c'est qu'il y avait un problème, ça leur pose problème aussi. Le problème, ça n'est pas que ça nous pose problème, le problème, c'est qu'on n'essaye pas de trouver des réponses à ce problème. Je pense qu'avec le temps, dans nos vies chrétiennes, nous développons une capacité à relativiser et même à oublier certains épisodes pénibles de nos vies. C'est sans doute une grâce de Dieu que nous ne nous souvenons pas avec la même intensité de toutes les choses pénibles de nos vies. Que le souvenir reste, mais pas l'intensité de la douleur, qu'elle soit psychologique ou physique, qu'elle change. Et je pense que c'est une grâce de Dieu. Mais ça n'évacue pas la question pour autant. Nous devrions donc, je pense, être plus honnêtes et plus transparents en ce qui concerne nos véritables sentiments et nos questionnements. Tout simplement parce que notre Dieu est assez grand pour supporter que nous interrogions ensemble sur son amour lorsque nous sommes perdus dans le brouillard. Il y a des situations de vie par lesquelles les chrétiens passent, ils peuvent honnêtement se poser des questions. Je pense encore une fois à Walter, certains d'entre vous le connaissent, missionnaire brésilien en Bosnie depuis quelques années maintenant, que j'ai bien connu à une époque de ma vie. Accident de voiture, il est tétraplégique. Voilà. Alors, je n'ai pas eu de contact avec Walter depuis, mais je suppose que Walter s'est posé des petites questions. Je suis à fond dans ton service depuis des années. Je ne vis que pour toi et à ton service et je me retrouve dans une chaise roulante à même plus qu'être capable de contrôler ma vessie, quoi. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, Seigneur ? Why ? Mes amis, je vais le formuler comme ça, je ne dis pas que c'est facile à entendre, mais je crois vraiment, Bible en main, qu'il y a une chose qu'il faut que nous nous rappelions. Ce sont les épreuves qui nous font nous poser les bonnes questions. Quand on est heureux, on commence à ne plus rien vivre. Spirituellement, j'entends. On investit dans sa famille, on se réjouit des déniers en famille, on s'occupe des enfants, on va à l'école, on a des activités, youpi. Et pendant ce temps-là, notre vie chrétienne bulle. Il y a plusieurs textes qui disent que c'est entre autres en permettant certaines choses que Dieu rappelle le pire moment de ma vie. Vous savez, quand j'ai commencé à en sortir, c'est à travers, je ferai le CD, il était là, c'est à travers la lecture d'un livre qui concernait Saint François d'Assise. Je ne savais pas. Saint François d'Assise, le créateur de l'ordre des franciscains, un ordre mendiant. Il a développé cette œuvre avec son ami, le frère Joseph, et après quelques années, ils étaient des milliers, pas encore, des milliers de moines dans cette congrégation qui commençaient à vouloir diriger la congrégation. Il y avait des problèmes d'orgueil. Donc François, il était tellement choqué par ça qu'il a préféré s'exiler dans la montagne avec le père Joseph. Ça a duré un an et demi à prier dans la neige avant que Dieu lui parle. Et vous savez comment il rend en fait cette épreuve terrible qu'il a vécue intérieurement. Écoutez, et moi ça m'a remis sur le droit chemin à l'époque. Si le serviteur de Dieu, nous le sommes tous, oublie Dieu, c'est ce que François dit, si le serviteur de Dieu oublie son Dieu à travers l'œuvre que son Dieu lui confie, Dieu peut permettre, écoutez, la maladie, l'épreuve ou même la mort pour ramener son serviteur à lui. Moi, mon problème à l'époque, c'est pour ça que je me suis cassé la figure, c'est que l'Église avait remplacé Dieu. Le service que j'avais envers Dieu avait remplacé ma relation avec Dieu. Et Dieu est un Dieu jaloux. Il nous aime. Il dit ça, c'est pas possible. Donc il va se passer des trucs, même s'il faut revenir par la fenêtre. Moi, je suis sorti de l'église par la fenêtre et je suis rentré par le toit. Ça se passera comme ça. Un exemple, histoire vraie. Un père, lors d'une partie de plongée, tu vois, avec son fils, remonte trop vite à la surface en ne respectant pas les paliers de décompression. Ils sont allés très bas. Et alors, quand vous allez très bas avec les bouteilles, je n'ai jamais fait de plongée, mais sachez, en remontant, il faut respecter des paliers. Autrement, vous chargez en azote votre organisme et quand vous arrivez à la surface, ça se passe très mal. Le papa ne fait pas ça. Résultat, le père finit en dialyse. Il a pété ses deux reins. Il est à l'hôpital, en traitement intensif. Et là, il est chrétien, ce papa, dont il y a des frères et sœurs en Christ qui viennent lui rendre visite et qui lui disent « Mais tu sais, le Seigneur sait, il va te guérir, il est avec toi. » Ce qui est assez vrai, hein. Seulement, le père s'est posé cette question pour la première fois de sa vie. Et tous les gens qui sont sous dialyse autour de moi, parfois depuis des années, donc leur rein s'est foutu, il ne fonctionnerait plus jamais. Pourquoi est-ce que Dieu ne les guérit pas ceux-là aussi? Parce que parmi ces gens qui sont sous dialyse, qui ne récupéreront plus jamais leur rein, il y a aussi les enfants de Dieu. Pourquoi il sera avec moi, il me guérirait moi et il ne guérirait pas ce mec d'en face? Il ne se serait jamais posé cette question s'il n'était pas passé lui-même par ce genre de phénomène. Et qu'en est-il de toutes les souffrances qui ne sont pas soulagées? Certains millions guérit tout le monde tout le temps en permanence. Hein. T'as mal aux dents, paf, on t'impose les mains. À ce tarif-là, tous les dentistes seront au chômage, hein, mes amis. Savez que dans d'autres religions, je reviendrai à mon thème, dans d'autres religions comme l'hindouisme par exemple, la souffrance est comprise comme un mauvais karma, c'est-à-dire que la personne souffre parce qu'elle doit expier des fautes commises dans une vie précédente. Donc, par exemple, mesdames, je suis désolé, vous seriez hindouiste, vous avez dû vraiment faire beaucoup de bêtises dans votre vie précédente pour vous réincarner en femme. Hein, parce que dans l'hindouisme, le pire état, c'est celui de la femme. Pour être une femme, il faut vraiment avoir exagéré. Hein. C'est pas qui le dit, c'est les hindouistes. Hein. Dans le bouddhisme, la joie comme la souffrance sont illusoires et ne sont le résultat que d'un désir humain. Le Bouddha a dit que la véritable illumination implique que la conscience, donc que le moi n'existe pas, faut vous désintégrer intérieurement. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, mes amis. Mais il y a au moins une chose que j'ai apprise en passant par où je suis passé, c'est que Dieu verse des larmes. Il faut arrêter de croire ou de penser en tant qu'enfant Dieu, en tant que chrétien, que notre Dieu est un Dieu impassible qui ne souffre pas. Je vais reprendre le terme hérésie qui en grec signifie simplement quitter le chemin, c'est tout, hein, faut pas brûler, ça veut simplement... À certains moments de nos vies, sans même en prendre conscience, nous sommes souvent, entre guillemets, hérétiques. Voilà ce que dit Jérémie. Mais c'est Dieu qui parle. En fait, j'ai pris une traduction. J'en ai quelques-unes sous la main en français. C'est très mal traduit de l'hébreu. Parce qu'on peut penser que c'est Jérémie qui pleure, alors que l'hébreu dit que c'est Dieu qui pleure. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai, et c'est Dieu qui dit ça. L'hébreu ne laisse absolument aucun doute. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil, mes yeux fondront en larmes. Jésus nous introduit dans la connaissance d'un Dieu qui souffre. Comment peut-on voir le Christ en croix, sur une croix, et se dire que Dieu ne souffre pas? Mais ce qui est intéressant à titre personnel, c'est que j'ai mis des années à vivre ça, à comprendre ça de l'intérieur. Voilà comment François Varillon, un prêtre jésuite, exprime cette réalité d'un Dieu qui souffre. Il ne sera pas donné aux hommes d'image plus parfaite de Dieu, tel qu'il est en lui-même, que l'homme Jésus agonisant, outragé et crucifié. Vous voulez avoir une idée du Dieu du christianisme? Regardez la croix. À sa casse, toutes les images qu'on peut avoir de Dieu. Un machin qui plane, tout puissant, qui écrabouille tout le monde. Peu avant d'expirer, de rendre l'âme, vous le savez, Jésus a crié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un passage du psaume 22 qui est à la fois un cri d'angoisse, mais aussi un cri de confiance. Et ça, on ne comprend pas ça. C'est un cri d'angoisse, mais c'est aussi un cri de confiance. La souffrance de Jésus à l'heure de la crucifixion, a cessé pour lui d'être une souffrance en communion. Quand on souffre, Dieu est toujours avec nous. Pas là. Pas là. Jésus est tout seul. Il ne sait plus pratiquement, comme d'habitude dans sa vie, comme nous parfois, que le Père souffre avec lui. Il a perdu ça de vue. Il ne sait plus. Il a l'impression d'être seul dans son humanité. Donc, il souffre donc seul, donc davantage. Tout le monde peut faire l'expérience, je parle de nous, hein, sur cette terre, d'avoir l'impression, même si on est entouré plein de gens qui sont proches de nous, que dans certaines souffrances de vie, nous sommes totalement seuls, que personne ne peut rien faire pour nous. Ce que Jésus a vécu, en fait, sur la croix, c'est ce que les théologiens appellent le point limite, ou la kénose. Il tire ça de l'épître aux Philippiens. Quand Paul dit que le Christ s'est abaissé, le terme grec dit « il s'est vidé de sa substance divine », littéralement. Mais dans cet abaissement, il y a une confiance vertigineuse. Elle est vertigineuse, la confiance que le Christ a encore en son Père. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a d'appui que cette confiance en elle-même. C'est la confiance ultime. D'ailleurs, dans son dernier souffle, il dira « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Il sait bien que le Père est là. Le pape Pie XI avait probablement compris ça. Lui qui suppliait les hommes, écoutez, de consoler Dieu. Il disait aux chrétiens, nous devons consoler Dieu. C'est magnifique ça. Et je pense surtout que c'est très juste. Et il ajoutait ceci en citant Augustin ou saint Augustin, « Donne-moi quelqu'un qui aime et il comprendra ce que je dis. » Il dit, quand je vous dis qu'il faut consoler Dieu parce qu'il souffre à une intensité que nous ne pouvons pas imaginer, il dit, il suffit que vous aimiez une personne pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Si on dit que Dieu est amour et qu'il est parfait, son amour étant parfait, sa souffrance doit être invraisemblable. Donc quand nous souffrons à quelque niveau que ce soit, nous ne disons pas Dieu m'abandonne. Dieu souffre beaucoup plus que vous de votre souffrance. Si je reviens à notre question du départ sur le silence de Dieu, je ne suis pas seulement frappé par ce silence, mais aussi par ce qu'on pourrait appeler le silence de l'athéisme, parce qu'il faut en parler quand même, de ceux qui ne croient pas. Ou le silence de l'absence de Dieu, parce que si les athées ont raison, Dieu n'existe pas. En fait, si on y réfléchit, nous ne sommes pas en présence ici d'un étrange silence. Les athées nous reprochent ça, oui, mais si Dieu existe, il ne se manifeste pas beaucoup, donc ça devient un mystère. C'est étrange si Dieu existe, qu'ils ne disent rien de lui, qu'ils ne se montrent pas plus. Oui, mais s'ils ont raison que Dieu n'existe pas, mes amis, mais c'est à des conséquences absolument abyssales en termes de sens. Hein. Parce que le silence de l'athéisme, à un moment, n'est pas un puzzle, n'est pas une énigme, pas un mystère. Ce silence est un silence qui dit, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. C'est ici et maintenant. Avant, il n'y avait rien. Et après, quand tu seras mort, hein, il n'y aura plus rien. Ce sera le néant. Donc, c'est le néant qui se fait écho à lui-même. Tu viens du néant et tu retournes au néant. Vous imaginez ? Où il y a Dieu avant toute chose, il y aura Dieu après toute chose. Où il n'y a rien avant, et il n'y a rien après. En fait, les questions sont relativement simples. En fait, tout homme aura à se décider lors de ce passage sur cette terre, s'il veut miser et construire sa vie sur la présence de Dieu ou sur son absence. Parce qu'il y a quand même un petit côté choix. Je vous disais ça la semaine passée. C'est vrai que ce qui repousse aussi les gens, c'est que pourquoi est-ce que je ne vois pas Dieu ? Pourquoi je n'ai pas accès ? Ben c'est leur péché qui les empêche. Et par péché, on pense souvent à des trucs horribles, mais non, hein. Dieu vous dit, tu dois me consacrer ta vie. Oh, moi, j'ai pas envie de faire. Moi, j'ai pas envie de faire ça. C'est un péché. Et vous allez faire prendre toutes les décisions que vous allez prendre après. Ce seront des décisions qui vont vous éloigner de la pensée de Dieu pour votre vie. Une jeune fille, j'ai déjà raconté ça, mais elle devait avoir 17 ans à l'époque. Elle s'était convertie deux mois avant, je pense, un truc comme ça. Et je parle avec elle. Je demande de ses nouvelles. Et elle me, je dis, ça va, ok. Elle me dit. Je suis content d'être chrétienne aujourd'hui, mais j'aurais préféré y venir plus tard, comme ça j'aurais pu profiter de ma vie et de ma jeunesse. Attends. Je comprends ce qu'elle dit, mais vous vous rendez compte ? Ben, elle n'est plus nulle part aujourd'hui, cette fille. Hein. Elle est mariée, elle est divorcée, elle a deux gosses, enfin soit. Forcément, ces personnes vont lâcher. Forcément. Alors, ils ont peut-être été mal encadrés, mal accompagnés. Vu le pasteur de l'époque, c'est même plus que probable. Ça n'en était pas un, donc forcément, ça complique les choses. Mais ça fait froid dans le dos. Deux athées faisaient un jour du porte-à-porte. Oui, les athées, parfois, sonnent aux portes aussi. La porte s'ouvre et ils tendent à l'homme qui vient d'ouvrir un folder, un dépliant, comme certains chrétiens font. Oui. Et l'homme prend le folder, il le retourne, il dit « Mais il n'y a rien d'inscrit sur ce folder. » Forcément, avec l'athéisme, il n'y a rien imprimé sur le papier. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils impriment? Puisque Dieu n'existe pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils inventent comme argument de changement profond et intérieur, de changement de société, d'environnement, de contact avec l'autre, de bonnes nouvelles à annoncer, puisqu'il n'y a rien à annoncer? S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a rien à écrire, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas d'indication. Rien ne fait une différence. En résumé, faisons tout ce dont nous avons envie, puisque le tract, il est blanc. L'univers est silencieux. Alors, bien entendu, que dans les faits, l'athéisme soit souvent une invitation à la dépression ne prouve pas spécialement que ce soit faux. Hein. Dernier argument que j'aimerais quand même. Ça, pour moi, c'est un des arguments les plus forts en faveur de l'existence de Dieu. Mais vraiment. Hein. Vraiment. Et c'est celui-là en partie qui a le plus déstabilisé des non-croyants quand je parlais avec eux. Vraiment. Donc, ça, je vous le file. Mais je crois ça, hein, et il est très biblique cet argument. Donc, au-delà de ce que nous avons dit, en gros, que la vie est dure pour tout le monde et que tout le monde souffre, et Jésus l'a dit, les croyants comme les non-croyants, il y a ce sentiment, pas seulement que les choses vont dans l'ensemble mal, mais encore que les choses ne sont pas comme elles devraient être. Quand on dit « comment c'est possible qu'un enfant meure ?» qu'est-ce qu'on dit en fait ? Qui ne devrait pas mourir. Où est-ce qu'on a tiré cette idée-là? Si Dieu n'existe pas. Si on est capable, même si on ne croit pas en Dieu, se dit, mais ce n'est pas possible que tout va mal comme ça. Ça n'est pas normal. Pourquoi est-ce que ce n'est pas normal? S'il n'y a rien. Donc ça veut dire que sans le savoir, ces gens font référence à une norme morale qui devrait faire en sorte que tout aille bien et qui ne tolère pas que ça aille mal. C'est vrai, les femmes ne sont pas supposées être abusées, violées, hein, franchement. Les papas ne sont pas supposés mourir d'un cancer à 40 ans avec des enfants en bas âge. Si l'univers est une machine, un accident gigantesque, une indifférence froide et aveugle, où diable avons-nous été chercher l'idée que les choses ne sont pas supposées se passer comme ça? D'où vient cette idée, à votre avis? Ecclésiaste 3, verset 11. Dieu a placé dans leur cœur, tous les hommes, hein, pas seulement ceux qui croient, la pensée de l'éternité. Dans le fond du fond, ils savent très bien que Dieu existe. Ils ont empilé tellement de trucs au-dessus que ça leur voile Dieu. Ils savent très bien. Et toutes ces questions, oh mon Dieu, pourquoi ci, pourquoi ça, comment on peut... Ça vient d'où? Du fait qu'à l'origine des choses, ça ne devait pas se passer comme ça. Et ça ne se passait pas comme ça. Petite histoire pour terminer. Une chrétienne se rend un jour chez le coiffeur. Oui, les chrétiens se coupent les cheveux aussi, hein, ça arrive. Hein. La discussion s'engage sur le sujet de Dieu, ce qui est déjà bien, hein, la sœur en question. C'est une histoire vraie. Hein. La sœur en question partage sa foi avec sa coiffeuse. La coiffeuse finit par dire, s'il y avait un Dieu, les gens ne souffriraient pas comme ça. Classique, hein. La cliente garde le silence parce qu'elle n'a rien à répondre à ça. C'est alors qu'elle voit s'arrêter devant la vitrine du coiffeur une femme dont les cheveux sont dans un état littéralement affreux. Elle a les cheveux dans un état pitoyable. C'est là que la cliente dit à sa coiffeuse, « Vous connaissez cette femme qui se trouve devant votre vitrine ?» La coiffeuse répond, « Oui, oui. » Et la cliente dit à la coiffeuse, « Comment pouvez-vous laisser cette pauvre femme avec des cheveux pareils ?» Et la coiffeuse répond, ben, je ne suis pas responsable, elle n'est jamais venue chez moi. Eh ben, pour Dieu, c'est pareil. Vous voulez que ça aille mieux? Venez chez moi. Ne pas reprocher quoi que ce soit à Dieu si on ne veut pas croire en son existence. Hein. Si on n'envisage même pas la possibilité de son existence. Le problème est que les gens ne vont pas à Dieu. Il ne le cherche pas. Il y a quand même une dynamique. Bien sûr que c'est Dieu qui donne la foi. Bien sûr que c'est Dieu qui sauve. Bien sûr que c'est la grâce. Bien sûr que nous sommes incapables, notre âme étant brisée, d'accéder à Dieu par nos propres forces. Mais Jésus est clair. Cherchez. Moi, j'ai cherché, hein, mes amis. C'est parce que je me suis posé des questions que finalement j'ai rencontré Dieu. Et que Dieu a placé des gens sur mon chemin qui étaient capables de me parler de lui. Donc le problème principal lorsqu'on doute de l'existence de Dieu, ce n'est pas que ce que le doute nous fait, c'est ce qui nous empêche de faire. Le doute empêche d'aller vers Dieu. Et c'est valable pour nos vies chrétiennes aussi. Dès que vous doutez de Dieu, c'est de son amour pour vous que vous doutez. Et de rien d'autre. Hein. Chaque fois que vous en voulez à Dieu, c'est parce que vous doutez de son amour. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.